Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire les poèmes de Sri Aurobindo. Le premier livre, la première édition, a été publié en 1981. C'est le premier livre que j'ai acheté quand je suis arrivée à Auroville. Alors je vais vous lire le mantra de Sri Aurobindo à la mère divine. C'est la première page. Om Anandamayi Chaitanyamayi Satyamayi Paramé. En français, ô toi, toute béatitude, toute conscience, toute réalité, ô suprême. Alors maintenant, je vais vous lire les notes qui ne concernent qu'un tout petit nombre de poèmes et sont exclusivement extraites de notes explicatives ou de lettres à des disciples par Sri Aurobindo lui-même. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par la postface où il parle d'un poème. Quand tombe le mantra dans l'oreille du yoga, son message pénètre animant le cerveau aveugle. Et dans les cellules ignorantes obscures, on conserve le son. L'écoutant perçoit une forme de mot et méditant sur l'indice de pensée qu'elle enferme de son mental, peinant, s'efforce de la lire, mais n'y voit qu'aperçu brillant, non, la vérité faite corps. Plongeant silencieux en lui-même alors pour connaître, il atteint de son âme l'écoute plus profonde. Le mot se reproduit en des accents rythmiques. Pensée, vision, sentiment, sens, le moi du corps sont saisis sans altération et il éprouve une extase et un immortel changement. Il sent une étendue et devient un pouvoir. Toute la connaissance sur lui se rue comme une mer, transmuée par les rayons blancs spirituel, il foule les cieux nus de la joie et du calme, voit la face du divin, oui, la transcendante parole. Alors le commentaire. Ni l'intelligence, ni l'imagination, ni l'oreille ne sont les vrais récepteurs du délice poétique. Pas plus qu'ils n'en sont les vrais créateurs. Ils sont seulement ses canaux et ses instruments. Le véritable créateur, le véritable écouteur est l'âme. Plus les autres effectuent de façon prompte et transparente leur travail de transmission, moins ils font valoir leurs prétentions distinctes à la satisfaction. Plus directement, le mot arrive et pénètre tout au fond de l'âme, et plus grande est la poésie. Par conséquent, la poésie n'a pas réellement accompli son œuvre, du moins son œuvre la plus haute, tant qu'elle n'a pas élevé le plaisir de l'instrument pour le transmuer dans le délice plus profond de l'âme. Un ananda divin, un délice interprétatif, créatif, révélatif, formatif, on pourrait presque dire un reflet inverse de la joie que l'âme universelle a ressentie dans sa grande libération d'énergie quand elle fit naître par le son dans les formes rythmiques de l'univers la vérité spirituelle. La vaste idée interprétative, la vie, le pouvoir, l'émotion des choses massées dans sa vision créatrice originelle. Telle est la joie spirituelle que ressent l'âme du poète et que lorsqu'il peut vaincre les difficultés humaines de sa tâche, il réussit à répandre également en tous ceux qui sont préparés à la recevoir. Et ce délice n'est pas simplement un passe-temps divin, c'est un grand pouvoir de formation et d'illumination. Le privilège du poète est de découvrir cette illumination plus intense de la parole, ce mot inspiré et le verbe suprême inévitable dans lequel se réalise l'unité d'un mouvement rythmique divin avec une profondeur de sens et un pouvoir de suggestion infinie jaillissant directement des sources de l'esprit en nous. Il ne peut pas le trouver toujours ou souvent, mais le rechercher la loi de son expression. Et quand il peut non seulement le trouver, mais couler en lui quelques vérités intimement révélées de l'esprit lui-même, il profère le mantra. Le mantra, expression poétique de la réalité spirituelle la plus profonde, est possible seulement quand les trois plus haute intensité du langage poétique se rencontre pour devenir indissolublement une. Une très haute intensité de mouvement rythmique, une très haute intensité de forme verbale et de substance de pensée, de style, et une très haute intensité de vision par l'âme de la vérité. Pour arriver au mantra, le poète peut partir de la couleur d'une rose du pouvoir ou de la beauté d'un caractère, de la splendeur d'une action ou bien de tout cela rentrer dans le secret de sa propre âme et de ses mouvements les plus cachés. La seule chose indispensable est qu'il soit capable d'aller au-delà du mot ou de l'image qu'il emploie ou de la forme de la chose qu'il voit, de n'être pas limité par eux, mais de pénétrer dans la lumière de ce qu'ils ont le pouvoir de révéler et de les inonder jusqu'à ce qu'il déborde de ses suggestions ou paraisse même se perdre et disparaître dans la révélation. Au sommet, le poète lui-même disparaît dans la vue. La personnalité du voyant est perdue dans l'éternité de la vision et l'esprit de tout semble seul être là, à énoncer souverainement ses propres secrets. Poèmes lancés dans l'espace, comme des mondes se mouvant et maîtres surgissant avec la voix de l'océan, traduisés par les grandeurs encloses au cœur de la nature, maintenant exprimés dans une danse gloire de paroles, la beauté et sublimité de ses formes, la passion de ses moments et de ses humeurs, haussant le mot humain près de celui de Dieu. J'ai parlé du mantra comme une forme révélatrice la plus haute et intense de la pensée et de l'expression poétique. Ce que les poètes védiques dessinaient par mantra était une voyance inspirée et révélée et un père et un penseur, deux visions accompagnées par une réalisation de quelque vérité la plus intime de Dieu, le moi, l'homme, la nature, le cosmos, la vie, la chose, la pensée, l'expérience et l'action. C'était un penser qui venait sur les ailes d'un grand rythme d'âme, car la voyance ne pouvait pas être séparée de l'ouïe. C'était un seul acte, et pas davantage la vie de la vérité au-dedans de soi. Ce que nous entendons par réalisation ne pouvait-elle être séparée de l'un ou de l'autre, car sa présence dans l'âme et sa prise de possession du mental doivent précéder ou accompagner chez le créateur ou vaisseau humain cette expression de la vue et de l'ouïe intérieure qui prend la figure du mot « illuminé ». Le mantra naît par l'action du cœur. Il est façonné ou agrégé par le mental pensant en un char de cette divinité de l'éternel dont la vérité visible est une face ou une forme. Et si notre mot est un réel mantra, tous les trois doivent également arriver ensemble dans le mental de l'écoutant, extérieur, capable, qui entend le mot du poète voyant. La vue de la vérité la plus intime doit accompagner l'ouïe, la possession par le mental de son esprit le plus profond et sa venue à son foyer dans l'âme doivent accompagner ou suivre immédiatement le message rythmique du mot et la vue de la vérité par le mental. Cela peut paraître un exposé plutôt mystique de la question, et pourtant en substance on pourrait difficilement avoir une description plus complète de la naissance et de l'effet du mot inspiré révélateur. Mais la poésie est le mantra seulement quand elle est la voix de la vérité la plus intime et qu'elle est transcrite dans le pouvoir le plus haut du rythme et de la parole propre à cette vérité. En d'autres termes, le mantra est un mot rythmique, direct et le plus élevé, le plus intense, le plus divinement chargé qui donne corps à une inspiration intuitive et révélatrice et donne âme au mental avec la vue et la présence du vrai moi, la réalité la plus secrète des choses et avec sa vérité et les divines formes d'âme de celle-ci, les dieux qui naissent de la vérité vivante. Oui, disons encore, c'est un langage rythmique suprême qui s'empare de tout ce qui est fini et amène en chacun la lumière et la voix de son propre infini. La théorie du mantra est que c'est un mot de pouvoir né des profondeurs secrètes de notre être, où il a été couvé par une conscience plus profonde que la conscience mentale, conçue dans le cœur et non pas construite par l'intellect. gardé dans le mental, puis concentré et agrégé par la conscience mentale de veille, et enfin proféré silencieusement ou vocalement. Le mot silencieux étant tenu comme peut-être le plus puissant que le mot parlé, précisément pour le travail de la création. Le mantra peut non seulement créer en nous-mêmes de nouveaux états subjectifs, modifier notre être psychique, révéler une connaissance et des facultés que nous ne possédons pas auparavant. Il peut non seulement produire des résultats similaires en d'autres mentales que celui qui en use, mais il peut engendrer des vibrations dans l'atmosphère mentale et vitale qui entraînent des effets, des actions et même la production de formes matérielles sur le plan physique. Tels des poètes, toujours, nous vivons dans un merveilleux monde de pensées, dont les formes issues de nous-mêmes amenées à être dures, florissantes. Le poète de son mental, vaste et actif, fait naître radieux un monde vivant. Dans l'espace lancé, elle se déroule la troupe brillante. Aime et hait, rit et pleure, en joie, combat et acclame, roi, seigneur et mendiant. Garçons et filles, amis et ennemis. De même, à ces créatures, le mental poétique de Dieu prête une substance. Le poète, aveuglé par une éblouissante inspiration, tant qu'elle ne s'arrête soi-même, s'oublie et vit dans ce qu'il forme, car toujours, son âme, à travers le chaos, comme un vent se déchaîne, créant jusqu'à ce que tournent les astres au sein d'un espace ordonné et que naissent les vertes contrées, le pôle des neiges, l'océan et ce grand ciel plein d'yeux et les sons doux à l'ouïe. L'homme et son âme étonnante de haine et d'amour et la bête et l'oiseau. Oui, il crée les mondes et le ciel au-dessus avec un seul mot. Et ces choses étant lui-même sont réelles et pourtant sont comme des rêves, car il s'éveille à soi qu'il a pu oublier dans ce qu'il paraît. Kavi, le Kavi ou vaste poète et voyant, n'est pas le Manichi, le penseur logique, l'analyseur scientifique ou le raisonneur métaphysique. Sa connaissance est une, non avec sa pensée, mais avec son être. Il n'est pas arrivé à elle, il l'a en lui-même, par la vertu de son pouvoir à devenir un avec tout ce qui l'entoure. Par une certaine forme d'unité spirituelle, vitale et émotionnelle, il est ce qu'il voit. Il est le héros fulminant au premier rang de la bataille, la mère pleurant son fils défunt, l'arbre secoué par la violence de la tempête, la fleur baignée de chaleur sous le soleil. Et parce qu'il est ces choses, alors il les connaît. Parce qu'il les connaît ainsi, spirituellement et non rationnellement, il peut écrire sur elles. Il ressent leurs délices et leurs souffrances, partage leurs vertus et leurs péchés, enjoie leurs récompenses ou subit leurs châtiments. C'est pour cette raison que la poésie écrite à partir de l'intellect est si inférieure à celle écrite à partir de l'âme et même comme pensée poétique si inférieure à la pensée qui arrive toute formée de l'âme par des voies impénétrables. Voilà, alors aujourd'hui, je termine cette lecture de Sri Aurobindo qui donne une explication à ses poèmes écrits bien avant 81, bien avant qu'ils soient publiés. Voilà. Alors, je remercie infiniment Sri Aurobindo pour l'explication de ses notes après avoir lu pendant longtemps, longtemps et encore maintenant ses poèmes. Alors, je remercie Sri Aurobindo. Merci Priya d'Anga Lakshmi.
This is Auroville Radio, voices from the City of Dome.